Jésus. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions que tu nous déposes quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Dépose cette parole comme une semence qui tombe sur une terre qui a été préparée afin que cette semence porte du fruit aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Souviens-toi de celui que tu t'es choisi pour le faire. Oins-le et donne-lui de parler avec autorité qu'en parlant de ta part au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est la grande joie d'accueillir et de présenter le prédicateur d'aujourd'hui, c'est Pasteur Pierre Assoumani. Et bon appétit à tous.
Merci. Merci. Alléluia. 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 Dieu est là ce matin, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez senti comme moi la présence du Seigneur au milieu de nous ce matin. Eh bien, j'aimerais dire merci au Seigneur d'abord et au pasteur pour cette opportunité qui me choisit ce matin d'apporter la parole de Dieu en ces lieux. Eh bien, sans plus tarder, nous allons lire dans Jacques 4, 17 et 7, 13 à 17. Jacques 4, 13 à 17. Jacques 4, 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Oui, je poursuis avec le survol de ce livre de Jacques. C'est vrai, là j'ai sauté deux ou trois évidences pour pouvoir contextualiser le message de ce jour. Comme je l'avais dit précédemment, Jacques dit que la foi, ce n'est pas une question d'accord avec une doctrine. La foi ne consiste pas simplement à donner un assentiment intellectuel, une adhésion intellectuelle à une liste de choses à faire et à ne pas faire. La foi qui sauve produira des fruits. Il est catégorique au sujet de ceux qui ont la foi ou prétendent avoir la foi de le prouver. Celui qui prétend avoir la foi doit montrer la preuve de cette foi. Et nous avons évoqué quelques preuves. Être à la chorale, être au service d'accueil. Non. La joie au milieu des épreuves de la vie. La victoire face à la tentation et ne pas toujours céder. La puissance du Saint-Esprit agissant en nous nous rend capables de vaincre toute tentation. La maîtrise de la langue, nous en avons parlé. La vie de prière, etc. Et ici, Jacques nous donne une autre évidence de la foi qui sauve. La foi quotidienne, la foi authentique, la foi en Jésus-Christ. C'est la confiance dans le plan de Dieu pour notre vie. Le désir ardent d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie est une marque certaine d'une vie transformée. Il est bizarre de voir des enfants de Dieu. Comme tout à l'heure, nous avons dit, nous sommes des enfants de Dieu. Mais le désir qui anime un enfant de Dieu, c'est d'accomplir chaque jour la volonté de Dieu dans sa vie. Et la preuve d'une foi vivante, c'est quand nous répondons positivement à la volonté de Dieu. Il y a quelques jours, j'étais émerveillé par le témoignage d'un frère. J'anticipe un tout petit peu, mais je vais quand même le faire. Le frère nous a partagé qu'il y a 30 ans, le Seigneur lui a parlé, alors qu'il était à l'est du pays, de lui bâtir un temple. 10 ans plus tard, là où il se retrouve à l'ouest du pays, le Seigneur lui rappelle de lui bâtir un temple. Il y a 2 ans, le Seigneur va parler à son fils, dit à ton père, de me bâtir un temple. Et en 2019, le frère a vendu ses biens pour bâtir ce temple. Et je crois, par la grâce du Seigneur, nous allons bientôt inaugurer une nouvelle extension de la borne. Alléluia. Ça, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous demande. Un enfant de Dieu, celui qui se dit, qui se reconnaît être un enfant de Dieu, celui qui dit avoir une foi authentique, eh bien, cela se reconnaît par l'obéissance à la volonté de Dieu. Il est dommage de voir des chrétiens dans la désobéissance. Un enfant de Dieu authentique obéit à ce que Dieu lui demande. Et ce que j'ai aimé dans le témoignage, en fait, il n'était pas le seul à nous donner son témoignage ce jour-là. C'est le site où est bâti ce temple. En 2012-2013, deux frères se sont rendus sur le même site. Et ils ont émis le vœu de bâtir, d'implanter une nouvelle extension de la borne. Eux aussi avaient un plan. Et c'est là, ça m'a inspiré ce thème, le plan de Dieu et nos plans. Et ce matin, j'aimerais parler du plan de Dieu et de nos plans. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un général américain, MacArthur, pour ceux qui ont étudié l'histoire, il avait besoin de faire traverser ses troupes sur une rivière. Et il a demandé à son ingénieur en chef, combien de temps faudrait-il pour construire un pont afin de traverser cette rivière? Et son ingénieur lui a dit, 3 jours. Mais au bout de 3 jours, il ne voyait toujours pas les plans. Il commençait à s'agiter et il a appelé son ingénieur en chef et lui a demandé, mais où sont les plans que je t'ai demandé? L'ingénieur en chef était un peu surpris. Mais il dit, mais mon général, le pont est déjà en place. Mais si vous voulez les plans, il faudrait attendre encore un peu de jours. Plusieurs chrétiens ressemblent à ce général, tellement préoccupés par leurs plans, tellement focalisés sur leurs plans, tellement concentrés sur leurs plans. Mais pendant ce temps, Dieu est à l'œuvre pour construire des ponts, pour faire avancer son royaume. Nous planifions et nous planifions. Mais pendant ce temps, Dieu est à l'œuvre à la recherche d'hommes et de femmes qui obéissent à sa volonté. Dieu est à l'œuvre à la recherche d'hommes et de femmes qui veulent accomplir sa volonté. Pendant ce temps, Dieu est à l'œuvre pour ouvrir des portes dans nos vies. Et c'est pourquoi dans ce passage, Jacques nous dit, et à tous ceux qui ont l'habitude d'élaborer leurs plans, que si vous voulez élaborer vos plans, vous devez vous soumettre et soumettre vos plans à la volonté de Dieu. Et la première chose que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, nous n'avons rien à craindre de la volonté de Dieu. Nous n'avons rien à craindre du plan de Dieu. Un des gros mensonges du diable, c'est qu'il veut que nous puissions nous méfier du Seigneur. Le diable veut que nous soyons sceptiques quant au plan de Dieu pour notre vie. Satan veut que nous croyions que Dieu n'a pas notre meilleur à cœur. Yanzambe et Umelak. C'est pas ça. Ça, c'est le diable. Il veut que nous soyons sceptiques au plan de Dieu pour notre vie. Et j'ai essayé de regarder à ma propre vie passée. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment méfiant quant au plan de Dieu dans ma propre vie. Et j'étais même étonné de voir combien je craignais le plan de Dieu dans ma vie. Vous savez, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je pouvais témoigner à n'importe qui. Je pouvais témoigner n'importe où. Je pouvais témoigner n'importe quand. J'étais très actif. Mais un jour, un pasteur m'a proposé d'aller faire une formation théologique. Alors, je ne vous dirai pas le sentiment que j'ai eu lorsqu'il m'a proposé ça, mais c'était un non catégorique. La conséquence, j'ai erré loin du Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai erré loin du Seigneur? Parce que je n'ai pas voulu me soumettre à la volonté du Seigneur. Combien ce matin sont en train d'errer? Combien ce matin sont en train de souffrir dans leurs relations de couple, dans leurs relations de famille? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté du Seigneur. Oui, la volonté du Seigneur n'était pas conforme à mon plan pour ma vie. J'avais mes propres plans pour ma vie. Je ne voulais pas que son plan vienne faire dérailler mon plan. Et comme toujours, on pense qu'on peut lui échapper. Je vois cet homme qui est venu me voir il y a quelques mois. Il m'a dit, le Seigneur lui a demandé de faire quelque chose, mais lui, il pensait autre chose. Il pensait d'abord aller faire ses affaires, et avec ce qu'il allait gagner dans ses affaires, il allait venir servir le Seigneur. Il me dit, pasteur, j'ai tout fait, je suis à terre, je ne sais plus rien faire. On ne peut pas fuir le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais dire, notre Dieu est souverain. Dans sa miséricorde aimante, il ne m'a pas laissé errer toute ma vie. Et je suis grandement reconnaissant envers lui ce matin de m'avoir délivré de ce que je peux appeler ma folie, de ne m'avoir même pas permis de réaliser mon plan. Avec une grande confiance dans son plan pour ma vie, qui est pour mon grand bien et non pour mon malheur. Le plan de Dieu dans votre vie, c'est pour votre bien, ce n'est pas pour votre malheur. Et je veux dire ce matin, avec une grande confiance dans son plan pour ma vie, qui est pour mon grand bien et non pour mon malheur. Avec une grande confiance dans la grandeur de sa parfaite volonté pour ma vie, avec une expérience croissante de son amour pour moi, de sa compassion pour moi, eh bien ce matin, je crois que je peux parler aux autres sur ce sujet. Que des chrétiens qui craignent littéralement la volonté de Dieu pour leur vie. Ils disent vouloir connaître la volonté de Dieu, mais à condition qu'elle n'aille pas, qu'elle ne soit pas en conflit avec leur volonté. Que des chrétiens qui voient mal la volonté de Dieu. Et parfois, lorsque vous partagez avec eux, c'est comme si vous étiez en train de leur administrer une pilule amère. Il y a un témoignage que j'ai lu, c'est vrai, ça m'a fait un peu rire. C'est une dame en Occident. Elle avait peur de donner sa vie à Christ. Vous savez ce qu'elle disait? J'ai peur, si je le reçois dans ma vie, il risque de m'envoyer dans un pays du tiers-monde. Elle avait peur que le Seigneur puisse lui demander quelque chose qu'elle ne puisse faire. Mais comme elle aimait beaucoup les animaux, un homme de Dieu l'a approché. Et lui a dit, réfléchis un peu madame, tu es dans ta maison, confortablement assise, tu es au chaud. Et à l'extérieur, il y a l'orage, il y a un froid glacial. Et sous ta fenêtre, tu vois un chat. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a pleuré. Et ce jour-là, elle a pu voir la perspective de Dieu quant à sa vie par rapport à ce qu'elle pensait. Dieu a tant aimé le monde, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu vient du cœur de Dieu. La volonté de Dieu vient du cœur de Dieu. Et lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous ouvrons nos vies à l'amour de Dieu. La volonté de Dieu est une expression de son immense amour pour nous. Quand nous résistons à la volonté de Dieu, nous résistons à l'amour de Dieu. Quand nous résistons à l'amour de Dieu, quand nous rejetons la volonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu que nous sommes en train de rejeter. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu seul peut nous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui a le meilleur pour vous. C'est Dieu qui a le meilleur pour chacun de nous. Alors le but de la vie est que nous apprenions à faire de plus en plus confiance en Dieu. Le but de cette vie est que nous apprenions à construire notre vie sur son plan et non pas sur notre plan. Le but de la vie est que nous ne puissions pas laisser la bonne et parfaite volonté de Dieu en dehors de nos calculs lorsque nous élaborons nos plans. Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Et nous n'avons rien à craindre par rapport à ce qui concerne le plan de Dieu. Et Jacques ici s'adresse à ceux qui planifient en écartant la providence divine. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un instant, pour un temps et ensuite qui disparaît. J'aimerais bien que nous puissions lever tout malentendu. Dieu n'est pas contre la planification. Dieu n'est pas contre que nous fassions des plans de travail. Dieu n'est pas contre que nous fassions des stratégies pour réussir. Et du reste, si nous lisons la Bible, nous verrons qu'il y a de nombreux passages, notamment dans le livre des Proverbes, où Dieu nous exhorte à faire des plans minutieux. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et si nous lisons dans Luc 14, 28, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui nous encourage à faire des plans. Mais ce que Dieu veut, il veut faire partie de nos plans. Et une sage planification, c'est lorsque Dieu fait partie de nos plans. Et si nous revenons à ces gens, qu'est-ce qui s'est passé? À ces marchands, eux qui étaient sûrement des membres de l'Église, leur culte peut-être exemplaire, leur moralité impeccable. Mais quand ils s'en sont arrivés aux affaires, ils ont écarté tout élément de dépendance à Dieu. Ils pensent entièrement sur un plan mondain. Souvent, j'entends, il ne faut pas voir Dieu partout. Ici, maintenant, ce sont les affaires. Maintenant, nous sommes en politique. Il ne faut pas voir Dieu partout. Non, j'aimerais vous dire ce matin, que vous soyez dans l'administration foncière, que vous soyez dans la justice, que vous soyez dans l'enseignement, que vous soyez dans l'armée, Dieu est concerné par ce que vous faites. Et lorsque vous écartez Dieu de vos plans, Jacques dit, vous faites une évaluation non réaliste de vos propres limitations. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. L'ignorance de l'avenir. Il est impossible pour qui que ce soit de garantir un avenir précis. Vrai ou faux. Impossible à qui que ce soit. Personne d'entre nous ne peut assurer un avenir précis. Une autre version nous dit, vous ne savez pas si demain vous vivrez. Demain ne viendra peut-être pas pour vous. Et je dirais, ne viendra peut-être jamais pour vous. Demain pourrait être le jour où vous allez rendre compte pour la vie que vous avez vécue ici. Nous avons un bel exemple dans la Bible, dans Luc 12. Luc 12, à partir du verset 16, c'est une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le temps ne nous appartient pas. Je répète bien. Le temps ne nous appartient pas. Vous ne savez pas si demain vous vivrez. J'ai souvent entendu, c'est notre temps. Et dans une église, je me souviens d'un leader qui s'était levé un moment pour dire, les 10 prochaines années, je vais marquer cette église-là. Mais au bout de quelques années, la personne n'était plus en place. Le temps, bien aimé, ne nous appartient pas. La vie est un ensemble complexe de forces, d'événements, de gens, d'imprévus et de circonstances sur lesquelles nous avons peu, sinon aucun contrôle. Nous venons de passer 5 mois de confinement, n'est-ce pas? Qui avait prévu que nous aurons 5 mois de confinement? La maladie, les accidents et même le retour de Christ pourraient écourter notre vie. Et pour éliminer toute vantardise, voici la question que Jacques va poser. Qu'est-ce que votre vie? J'aime bien cette question. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Et pour les lecteurs de la Bible, ils verront que dans la Bible, cette réalité est plusieurs fois soulignée. La brièveté et la fragilité de la vie. La vie est comparée à un petit nuage, à un brouillard. C'est comme une fleur ou des feuilles emportées par le vent. Et dans le psaume 37-39, verset 5, on peut lire « Tu as donné à mes jours la largeur de ma main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que souffle. Tu as beau être grand, tu as beau être populaire, tu as beau être riche, mais tout homme debout n'est que souffle. Si je me tiens ce matin devant vous, c'est parce qu'il y a encore ce souffle qui est en moi. Dès que ce souffle se retire, je vais m'affaisser. Si ce matin nous sommes là, eh bien c'est parce que Dieu nous prête encore ce souffle. Et Ecclésiaste 8 nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Tout homme debout n'est que souffle. Notre vie est éphémère et courte, et quelle que soit la durée. Ça, j'aimerais bien insister. Notre vie est éphémère et courte, quelle que soit la durée. Nous sommes d'un court passage dans ce monde. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est parmi les jeunes. On dirait que dans la jeunesse, ils n'ont pas ce sens de la fragilité, de la brièveté de la vie. Et j'ai vu plusieurs jeunes développer un sentiment, je dirais, d'invulnérabilité, un sentiment d'invincibilité. Et les funérailles les plus dures auxquelles j'ai pu assister, c'est quand un jeune meurt. Vous savez qu'il arrive qu'un jeune perd un ami lors d'un accident de moto ou de voiture. Maintenant, avec Noé, c'est de plus en plus qu'on connaît de tels accidents. Bien sûr, ça peut être aussi lors d'une opération, lors d'un accouchement, ou bien parce qu'il a pris abusivement de la drogue. Mais il arrive qu'un jeune meure. Et c'est pendant ce temps-là où j'ai vu des jeunes en état de choc, vraiment. Et je vous dirais qu'ils étaient vraiment traumatisés. Parce que tout d'un coup, ils réalisent la réalité de la mortalité humaine. Je vois ce jeune qui a perdu son épouse il y a quelque temps. Alors que j'étais à côté de lui, il a dit, la mort, c'est vrai. C'est comme s'il assistait à un premier décès. La mort, c'est vrai. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'il n'a pas connu des décès dans sa famille? Il n'a pas assisté à des funérailles. Ce jour-là, il a dit, la mort, c'est vrai. Ce qui est bizarre, après quelque temps, ils oublient et ils reviennent toujours à leur mode d'invincibilité. Bien-aimés, la vie terrestre a un point final et nous ne savons pas quand est-ce que ce point final pourrait intervenir. Ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, la vie terrestre a un point final. Et vous me direz, mais pourquoi je suis en train de dire ça? Est-ce que nous sommes pendant un deuil? Non. Si, c'est tout simplement parce que faire la volonté de Dieu, bien-aimés, c'est maintenant. Il est insensé de vivre et de planifier notre vie sans considération de la volonté de Dieu si nous voulons être prêts lorsque le Seigneur va revenir. Impensable, nous ne pourrons jamais rencontrer le Seigneur si nous ne sommes pas en train de faire sa volonté. La jeunesse a tendance à dire, j'ai encore beaucoup de temps à vivre, je le ferai plus tard, mais demain ne vous appartient pas. Demain appartient au Seigneur. C'est une erreur de penser qu'il nous reste encore beaucoup de temps pour vivre pour Christ, pour apprécier la présence de ceux que nous aimons. C'est une erreur de penser qu'il nous laisse encore beaucoup de temps pour parler de Christ. C'est une erreur de penser qu'il nous reste encore de temps pour honorer Dieu, pour honorer nos responsabilités. Vivons pour Dieu maintenant. Ainsi, quel que soit le terme de notre vie, nous aurons accompli le plan de Dieu dans notre vie. Au lieu de nous relaxer dans un faux sentiment de sécurité du monde, peut-être c'est notre réussite, notre gloire qui nous monte dans la tête. Mais réaliser que nous ne contrôlons aucunement la vie. Nous ne contrôlons aucunement la vie. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il contrôle la vie. Et c'est pourquoi Jacques dit dans Jacques 4:15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, Dieu voulant. une expression très courante, pratiquement quotidiennement. Nous avons l'habitude d'entendre « si Dieu le veut ». Les chrétiens de l'époque avaient l'habitude de mettre les lettres DV, Deo volente, c'est toujours Dieu voulant. Et si nous lisons les épîtres, nous verrons que Paul avait l'habitude, c'est ainsi que Paul vivait. Acte 18, verset 21. Il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Dans 1 Corinthiens 4, 19. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et nous voyons encore, ça vous allez lire après, Romains 1, 10, 1 Corinthiens 16, 7, Philippiens 2, 24, et auquel vous pouvez réajouter Hébreux 6, 3. Est-ce que Jacques est-il en train d'instituer un pieu, si Dieu le veut? Chaque fois nous avons décidé de manger une pizza. Non. Si Dieu le veut, ce n'est pas une formule magique, mais c'est l'ouverture de notre vie au projet du Seigneur. Ce n'est pas une formule magique que nous récitons machinalement, mais c'est la recherche sincère de la volonté de Dieu dans notre vie, même dans nos préoccupations quotidiennes, nos préoccupations terrestres. Si Dieu le veut, ce n'est pas une formule magique, mais une attitude réaliste qui affecte tout notre être, toute notre conduite. Ce n'est pas un pieux espoir que Dieu laissera faire, mais une pieuse foi que Dieu veut vraiment. Ce n'est pas un remplissage pieux, mais c'est une reconnaissance solennelle que notre vie repose entre les mains de la providence de Dieu, en qui seul se place toute notre confiance. Non, nous n'ajoutons pas simplement à la fin de chaque plan, ainsi Dieu le veut, mais c'est un plan avec Dieu. Bien-aimé, je vous dirais que pour un chrétien, faire la volonté de Dieu, c'est un acte d'adoration. Cela doit provenir du cœur du croyant. Et je dirais même que c'est ça notre mode de vie. Faire la volonté de Dieu, c'est ça notre mode de vie. La volonté de Dieu est centrale pour tous nos plans. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, signifie que c'est Dieu qui est au contrôle. Nous vivrons seulement parce que Dieu le veut. Vous vivrez seulement parce que Dieu le veut. Lui seul contrôle la mort et la vie. C'est Dieu seul qui contrôle si nous ferons ceci ou cela. C'est Dieu qui est au contrôle. Ce n'est pas notre volonté, ce ne sont pas nos efforts qui font qu'aujourd'hui nous sommes en vie ou si nous sommes en sécurité. C'est sa volonté, selon ce passage. Proverbe 16, 1 nous dit, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Et il y a une pensée, une expression dont nous avons l'habitude de répéter, « L'homme propose, Dieu dispose. » Ces gens avaient établi des plans, mais tout cela dépendait d'une volonté plus élevée que la leur, celle d'un Dieu qu'ils n'avaient pas consulté. C'est vrai que nous voulons naturellement être au contrôle, et chaque fois que nous perdons le contrôle de quelque chose dans notre vie, nous devenons nerveux. Mais je vous dirais qu'il est sage de reconnaître que c'est Dieu qui est en contrôle. Ce matin, je vous dirais, il est sage de reconnaître que c'est Dieu qui est en contrôle de votre vie, en contrôle de ma vie, même dans les choses que nous ne comprenons pas, même dans les choses qui n'ont pas de sens pour nous, même dans les choses qui nous font pleurer. La semaine dernière, il y avait une maman qui me posait une question. Je lui ai dit, je ne sais pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Je ne sais pas toujours pourquoi Dieu permet ce qu'il permet. Je ne sais pas toujours pourquoi Dieu commande ce qu'il commande. Mais je crois qu'en grandissant en Christ, dans la confiance et dans l'obéissance, je pourrai un jour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Mais ce que je vous dirai, tant que je sais que Dieu est en contrôle, je suis en paix. Peut-être en ce moment vous êtes confronté à l'anxiété, comme les disciples dans la barque. Vous avez oublié une chose, que c'est le Seigneur qui est en contrôle. Et Jacques va nous donner la raison pourquoi est-ce que ces gens ont exclu Dieu dans la planification. 4:16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Si vous prenez une version, une autre version vous dira dans vos projets présomptueux. Une autre version vous parlera de votre présomption. En réalité, ce sont des plans qui ne sont pas faits dans la prière. Mais pourquoi? Ici, nous voyons que les hommes sont sûrs d'eux-mêmes. Ils sont confiants dans la réalisation de leurs propres plans. Ils sont confiants de leur propre pouvoir. Ils sont confiants de leurs propres ressources. Je peux le faire. Ça, c'est la présomption qui dit à Dieu, je peux le faire moi-même, je n'ai pas besoin de toi. C'est le moi qui prend la place de Dieu à la commande. Au lieu que ce soit Dieu en contrôle, c'est le moi qui est en contrôle. Connaissez ces gens qui vivent comme si Dieu et sa volonté n'existaient pas? Qui est en contrôle? C'est eux-mêmes qui sont en contrôle dans ces cas. Et d'autres, c'est vrai, tout en reconnaissant l'existence de Dieu et de sa volonté, mais refusent de soumettre leurs incertitudes de la vie à Dieu. Ils placent leur personne, leur volonté, ils placent, je dirais, leurs propres objectifs au-dessus de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'éleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Là, vous avez les 5 jeux égocentriques de Satan qui ont causé sa chute. Je monterai au ciel, j'éleverai mon trône, je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais dans le passage que nous avons lu de Jacques, nous avons aussi 5 éléments présomptueux. C'est eux-mêmes qui ont décidé où ils vont aller, quand ils vont aller, combien de temps ils vont faire, quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire et quel but qu'ils vont atteindre. C'est comme s'ils étaient omniscients, omnipotents, comme s'ils étaient invulnérables, maîtres de leur propre destinée. Et Jacques dit, vous vous vantez vainement de vos projets présomptueux. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, il y a des grands projets qui jonchent l'histoire de l'humanité. Vous avez le règne continental de Napoléon. Que dire d'Hitler? Voici ce que je vous dirai par rapport à ça. Le psaume 113, verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Je vous dirai que les nations s'élèvent, que les nations se disent toutes puissantes, que les nations se moquent de Dieu. Mais Dieu est plus élevé au-dessus des nations, Dieu est plus puissant que leurs dirigeants. Et les routes de l'histoire sont couvertes de débris des nations qui ont oublié Dieu. Les hommes ne veulent plus écouter Dieu. Et pourtant, un chrétien mature, c'est un chrétien qui est dépendant de Dieu. Si tu veux être un chrétien mature, sache qu'il doit être dépendant de Dieu. La maturité vient de l'obéissance à Dieu. La maturité vient de la confiance en Dieu. La maturité vient de la soumission à Dieu. Et Dieu veut révéler sa volonté à ceux qui cherchent à lui obéir. Ce n'est que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu et nous l'appliquons dans nos vies, que nous pouvons voir que cette volonté est bonne, acceptable et parfaite. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et Jésus, dans Jean 4, 34, nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu veut que vous obéissiez avec joie et enthousiasme à sa volonté. Et enfin, Jacques va nous donner un plan, une façon d'investir pour l'éternité. Et il va nous montrer que c'est maintenant que nous devons investir pour l'éternité. Alors que nous sommes en train d'élaborer nos plans, pensons toujours à l'éternité. Jacques 4, 17, il dit ceci, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. » Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Le péché, ce n'est pas seulement les torts que nous commettons, c'est aussi les bonnes actions que nous omettons de faire. Connaître ce qui est juste et ne pas le faire, c'est aussi un péché. Ne pas tenir compte de la volonté de Dieu, c'est aussi un péché. Et nous n'avons pas d'excuses. Le Nouveau Testament est clair. Les péchés d'omission seront traités aussi sévèrement que les péchés de commission. Et ça, nous le voyons dans Matthieu 25. Là, on dit que le Seigneur, il séparera les boucs avec les brebis. Au verset 34 et 35, il dit, « Il mettra à sa droite qui ?» Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et les justes répondront, quand est-ce que nous avons fait cela? Et le Seigneur dira, chaque fois que vous l'avez fait aux nécessiteux, c'est à qui vous l'avez fait? C'est au Seigneur qu'ils l'ont fait. Et à sa gauche, là, il mettra les autres. Retirez-vous de moi, c'est au verset 41, maudit, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'occasion de faire du bien, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont vu nu et ne lui ont pas donné, ils l'ont pas vêtu. Ils l'ont vu affamé, mais ils ne lui ont pas donné à manger. Ils l'ont vu assoiffé, mais ils ne lui ont pas donné à boire. Mais quand est-ce qu'ils n'ont pas fait cela? C'est chaque fois qu'ils ont rencontré les nécessiteux et qu'ils ne l'ont pas fait. Bien-aimés, je vous dirais que nous pouvons investir maintenant pour l'éternité. Alors que nous sommes en train d'élaborer des plans pour nos vies, pour l'avenir, n'oublions pas d'investir nos vies pour l'éternité. Nous sommes riches, non à cause de ce que nous avons en banque, mais à cause de ce que nous avons en Christ. Les intérêts de nos affaires nous conduisent à faire des plans égoïstes selon le monde. Et ces plans selon le monde, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons amasser. Mais Dieu a sa propre façon d'investir. Si nous voulons avoir des dividendes éternels, Dieu nous demande de donner aux nécessiteux. Et j'aime bien ce qu'un jeune a dit, parce qu'il a voulu investir sa vie pour l'éternité, en allant servir sur un champ missionnaire. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, je rends grâce à Dieu du fait de ne m'avoir pas permis d'accomplir mes plans dans ma propre vie. Parce que les plans qu'il a accomplis dans ma vie, ce plan me permet déjà d'investir dans l'éternité en travaillant pour lui. Et qu'est-ce que ce jeune a dit? Il est sage, celui qui donne ce qu'il ne peut garder, mais qui gagne ce qu'il ne peut perdre. Michael Faraday a dit ceci, c'est un physicien chimiste, que sera votre emploi dans l'autre monde? Il dira, je serai avec Christ et cela me suffit. Et il a vécu toute sa vie en communion avec Dieu, mais pas dans l'esclavage de ce monde qui passe. Seules les choses que nous faisons avec joie dans l'obéissance à la volonté de Dieu vont durer. Bien-aimés, je répète, seules les choses que nous faisons avec joie dans l'obéissance à la volonté de Dieu vont durer. Et ce sont ces choses-là qui vont compter pour l'éternité. Si nous voulons que nos vies comptent, que nos efforts aient un but éternel, nous devons nous soumettre nous-mêmes et soumettre nos plans à la volonté de Dieu. N'oublions pas que nos plans sont fugaces. Les plans que nous élaborons, c'est pour le temps. Et ces plans sont sujets au changement. Mais les plans de Dieu sont éternels et immuables. Il se peut que la raison que nous échouons dans la vie chrétienne, c'est simplement parce que nous avons été indifférents à ce qui est juste. C'est possible, nous échouons simplement parce que nous avons été indifférents à notre conviction chrétienne. Nous avons été indifférents à l'œuvre du royaume de Dieu. Nous avons été indifférents à ce que Dieu est. Nous avons été indifférents à ce que Dieu veut que nous fassions. Nous avons été indifférents à la vérité qui est foulée aux pieds. nous avons été indifférents à Dieu et aux autres. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour votre vie? Quelle est l'attitude que vous avez envers cette volonté? Acceptez-vous d'obéir ou bien vous refusez d'obéir à cette volonté? Ou bien vous obéissez à contre-cœur, comme Jonas, qui connaissait la volonté de Dieu, mais qui a d'abord résisté, mais ensuite il a obéi à contre-cœur. Faites-vous vos propres plans au mépris total de la volonté de Dieu pour votre vie? Ou bien maintenant vous voulez connaître peut-être la volonté de Dieu juste pour comparer à votre plan? Ce que j'aimerais vous dire en terminant, c'est que les plans de Dieu vous incluent. Est-ce que vos plans incluent-ils Dieu? Les plans de Dieu vous incluent, mais est-ce que vos plans incluent Dieu? Dieu veut faire partie de votre planification. Dieu veut que vous ne puissiez pas l'oublier alors que vous êtes en train de faire votre planification pour le futur, parce que vous ne savez pas ce que demain va vous ramener. Peut-être demain, ce sera le jour où vous allez rendre compte à Dieu pour votre vie, pour ce que vous aurez vécu. Alors que vous soyez à la douane, que vous soyez dans les affaires foncières, que vous soyez militaire, que vous soyez politicien, n'oubliez pas, votre vie, ce que vous faites, et surtout que vous êtes des chrétiens, concerne Dieu. Voulez-vous soumettre votre vie à la volonté de Dieu ce matin? Baissons la tête. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où que vous travaillez, sachez que les plans que vous élaborez intéressent Dieu. Peut-être vous travaillez dans une organisation que j'ai citée, mais vous savez bien que ce que vous faites n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin vous voulez venir auprès du Seigneur et demander pardon au Seigneur? Et lui demander sa volonté. Vous pouvez être à la douane, vous pouvez être dans les affaires foncières, vous pouvez être dans l'armée, vous pouvez être même politicien, mais sachez que Dieu est intéressé par ce que vous faites. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut dire, oui, Seigneur, je veux connaître ta volonté pour ma vie? Si vous êtes là, levez-vous et nous allons demander au Seigneur sa grâce. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je marche loin de toi. Oui, lorsque je traite les affaires du monde, je ne cherche pas toujours ta volonté. Ce matin, je veux connaître ta volonté. Y a-t-il quelqu'un qui veut se remettre au Seigneur ce matin? Vous pouvez être dans l'enseignement. Vous pouvez être, je ne sais pas dans quel domaine de la vie. Oui, vous pouvez vous lever et nous allons demander au Seigneur qu'il puisse vous accorder sa grâce. Merci pour ceux qui s'élèvent. Et comme je l'ai dit au début, une vie transformée, une vie d'un chrétien, c'est une vie qui recherche toujours la volonté de Dieu. Un chrétien authentique cherche toujours à accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous ne croyez pas que cet appel nous concerne tous? Tous nous avons le devoir de rechercher la volonté de Dieu dans nos, quel que soit le moment, quels que soient les aspects de notre vie familiale, notre vie personnelle, notre vie personnelle. Nous avons besoin de rechercher la volonté du Seigneur. J'aimerais demander à tout le monde de se lever, parce que je crois que ceci nous concerne tous. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie.
J'essaierai de chanter avec toute l'assemblée. Car Dieu,
car Dieu, le mot qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit n'ait péri, mais qu'il ait. La vie est, oh, mais qu'il est, la vie est, oh, mais qu'il est, la vie est, oh, car Dieu, a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie.
C'est plus que des paroles d'une chanson, c'est plus qu'une belle mélodie, c'est le témoignage de notre foi, Seigneur. En ce matin, nous nous abandonnons entre tes mains. Toi qui as tant aimé le monde, qui n'avait rien de bon, mais qui a donné aussi celui que tu avais, non que tu eus plusieurs fils, mais le seul, le Fils unique, tu l'as donné aux gens qui ne le méritaient pas. Seigneur, en ce matin, je prie pour mon frère, ma sœur, qui veut s'abandonner entre tes mains, qui veut que tu deviennes son Seigneur et son Maître. Seigneur, s'il te plaît, pardonne son péché, pardonne son parcours et donne-lui l'occasion de marcher dans une vie nouvelle, au nom de Jésus.